On est jeudi. En fait, dans 15 jours, samedi 10 février, il y a un appel à une manifestation d'ampleur sur la ZAD, sur le site de Notre-Dame-des-Landes, sur le site de l'ex-projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Il faut savoir que c'est la première manif d'après victoire. C'est-à-dire, quand on dit victoire, c'est que le gouvernement, les pouvoirs, ont concédé leur défaite en annonçant qu'il ne ferait pas d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes. Donc pour tous les gens, toute la lutte, tous les gens qui luttent depuis 40 ans, ceux qui sont venus depuis 10 ans habiter, toute l'expérience qui est en cours actuellement à la ZAD, c'est une victoire manifeste et c'est une première bataille de franchie et de gagner. Donc on est plusieurs de la montagne Limousine à avoir suivi la lutte à la ZAD, à avoir même construit des choses, à avoir des liens particuliers. Après, on pourra en parler d'autres. Et on est plusieurs à vouloir se rendre ce samedi 10 février à cette manifestation qui promet d'être énorme parce que toutes les manifestations qui ont été appelées de manière large, c'était des superbes cortèges de dizaines de milliers de personnes, très larges, très diverses, très colorées. On se souvient, il y a 4 ans, de cortèges où on avait reconstruit totalement un lieu qui s'appelle la Châtaigneraie, qui était un lieu de convergence. Et dans ce cadre-là, on est plusieurs, même de la montagne Limousine, à fabriquer un espèce de dragon, un hydre, qui représente l'usine contre laquelle certains d'entre nous luttent actuellement, l'usine appelée de Bugeavion.
Ouais, mais il y a un truc à préciser, c'est aussi que la victoire contre le projet d'aéroport, elle laisse des choses de côté. Elle laisse une chose déjà extrêmement importante sur place là-bas, c'est le maintien et la défense d'une zone, on va dire, extraordinaire, exceptionnelle, hors norme, on pourrait dire hors norme. Et tout le monde va pouvoir tendre à croire que maintenant que l'aéroport est abandonné, il faut repartir. C'est bon, ils ont gagné, je sais pas quoi. Ce qui s'est passé depuis le début des occupations, donc qui a commencé massivement, on va dire, en 2009, puis 2010, et puis qui s'est réaffirmé. On parlait juste tout à l'heure de la manifestation de réoccupation, c'était en 2012, donc c'est même il y a 5 ans et demi, avec encore plus d'installations. Il y a des gens qui ont commencé à fonctionner ensemble, qui ont commencé à s'organiser. Il y a maintenant 2 boulangeries, il y a plusieurs potagers, il y a un atelier rap hebdomadaire, il y a une fois par semaine un truc qui s'appelle le non-marché, où tous les produits proposés sont à prix libre.
Il y a une radio.
Il y a une radio, c'est Radio Klaxon. Il y a une bibliothèque qui a fait venir énormément de monde, qui est devenue un espèce de point de passage très intéressant. Et ça, il ne faut pas que ça disparaisse. Et ça, il va falloir le défendre sans se dire, ben bon, c'est fini, on a gagné, il faut repartir. C'est le contraire. Il y a quelque chose qui a commencé qui doit être défendu aussi en tant que tel.
Et la convergence le 10, ça sera aussi l'occasion d'inaugurer tout ce qui a été construit depuis un an. Et c'est assez important, dont le hangar de...
Ce qu'ils appellent le hangar de l'avenir.
Ouais.
Le hangar de l'avenir, c'est effectivement à côté d'une des fermes où il y a une production notamment de fromage de vaches et aussi d'élevage. C'est une ferme qui a été reprise en collectif par des paysans. C'est le collectif de paysans qui s'appelle Copain. Les paysans opposés à l'aéroport. Et il y a aussi des personnes de la ZAD qui fonctionnent avec eux, etc. Il y a beaucoup d'espaces, de rencontres comme ça qui se sont mis en place. Et le hangar de l'avenir, il a été construit par une équipe de charpentiers qui travaillent en charpente traditionnelle. Et donc du coup c'est un truc massif de plusieurs mètres, je sais plus combien il fait au faîtage, il y a même un petit campanile dessus, je crois que le campanile il est à quelque chose comme 10 mètres,
ouais.
Et ils sont en train de construire autour, sur la base de ce hangar, il y a une petite annexe qui a été construite pour faire un espace de menuiserie si je me trompe pas, et ils pensent en faire différents espaces d'ateliers ouverts pour l'ensemble de la zone, ils veulent mettre un atelier métal aussi je crois, d'autres idées, d'autres infos là-dessus non ?
Non, j'ai juste... Là, ils sont en train de couler la dalle, mais ils auront jamais fini le 10. Mais ils ont le matériel pour la menuiserie, en tout cas. Et le duel entre tous les projets contre lesquels on lutte, ça se passera sur ce terrain-là, proche de ce hangar-là.
Là, c'est une petite mise en scène, en fait, dont tu parles.
Ouais.
Puisque, vu qu'il y a cette espèce de défilé de la victoire, en tout cas de cette victoire contre l'aéroport, restant à gagner une victoire pour le maintien d'une zone hors norme là-bas, il va y avoir plusieurs... personnes issues de collectifs qui sont en lutte dans différents espaces. Pour moi, c'était le deuxième volet, c'est-à-dire il y a une chose à pas oublier après la victoire sur l'aéroport, c'est qu'il y a une zone à défendre encore là-bas, dans toute sa diversité, etc. Ça, c'est un enjeu et qu'il faut soutenir. Et autre chose, c'est que c'est pas fini. Les questions de lutte par rapport à de l'aménagement de type autoritaire, toujours descendant, toujours capitaliste, toujours dans l'idée de faire du profit, etc. Il y a eu un calendrier commun qui avait été signé par plusieurs associations et collectifs, notamment ceux qui luttent contre la construction d'un center park, donc un centre de vacances géant sous bulle, chauffé dans l'Isère. D'autres qui luttent contre la poubelle nucléaire de Bure. Alors là, il y a pas mal de monde qui s'est installé, et puis il y a une forêt qui a été sauvée du défrichage intégral il y a maintenant 2 ans, et qui reste encore un espace dans lequel l'Andra, qui est promoteur du projet d'enfouissement Cigéo, voudrait faire un puits d'aération des futurs mines, des futurs tunnels où serait enfoui du uranium. Et donc, bon, il y a à Bure, il y a beaucoup de gens qui luttent aussi. La Massade en Aveyron, c'est un espace opposé à la construction d'un méga transformateur 400 000 volts lié à une série d'un millier d'éoliennes industrielles qui seraient plantées sur l'Aveyron, le Lot. Et donc, c'est aussi toute une population locale qui s'oppose à ce méga transformateur, avec également des propositions et un festival annuel, notamment qui s'appelle la Fête du Vent, où ils ont monté eux-mêmes une éolienne, ils ont mis une cabane qui est un lieu de convergence et un lieu de rencontre. Il y a pas mal de rencontres entre les collectifs localement, etc. Et nous, on a pu travailler avec ces différents collectifs. J'en passe, hein. Il y a aussi des opposants à la construction d'une autoroute à côté de Strasbourg. Il y a aussi des personnes qui s'opposent à l'extraction massive de sable en baie de Lannion, ainsi qu'à une centrale à gaz à Landivisiau, ça c'est en Bretagne. Et à chaque fois, on voit deux choses différentes. C'est à la fois un espace d'opposition à des projets qui semblent vraiment tomber du ciel et qui se font vraiment contre l'avis de la population, ou en tout cas sans lui demander son avis, et si elle est contre, c'est encore pire. Enfin, on se retrouve face à l'État ou face à différents organismes. Et à côté de ça, c'est l'espace de rencontre et l'espace de un peu de formation collective, entre guillemets, où justement, ce qui se passe, c'est aussi de se faire des bouffes ensemble, de travailler comme on fait là à fabriquer un char, d'échanger, le soir on mange ensemble des fois, comme on va le faire ce soir, on prend contact, on discute, on commence à se connaître. Il y a des gens qui passent dans la rue, qui nous voient en train de fabriquer ce char, ils nous posent des questions, on discute avec eux, donc on relaye aussi la question de la ZAD, et puis c'est une autre occasion de parler de l'usine appelée localement. Et voilà, nous localement, il y a cette histoire d'usine appelée qui nous travaille pas mal, puisqu'on est tout à fait opposé à l'usine à Bugeavian, pour des raisons assez évidentes. C'est qu'il est déjà démontré que la biomasse n'est pas du tout une alternative en termes de transition énergétique, d'une part, et d'autre part, que le parachutage d'un industriel qui est président de 15 sociétés différentes et qui, à côté de ça, va toucher des subventions publiques, mais de manière moins visible, voire même il pourra toujours dire qu'il n'en a pas. En fait, il y en a quand même, ça passe par des endroits un peu moins visibles. Le mec, il a été condamné pour recel de favoritisme et des conflits d'intérêts, déjà. Enfin, bon, voilà, les patrons voyous qui débarquent en disant qu'ils vont sauver le pays alors qu'ils vont juste prendre tout ce qu'ils ont à prendre, c'est une forme d'extractivisme, comme on dit aujourd'hui, c'est prendre un territoire avec ses ressources, pomper tout ce qu'on peut, et quand il n'y a plus rien, on s'en va. Donc nous, pour nous, il n'y a aucune raison de se réjouir de ça, et au contraire, il faut s'opposer à ce projet absurde. Il y a plein d'autres choses à faire sur le territoire.
Alors, tu as parlé d'histoire de convergence. Le 10 février, donc, c'est une manif pour réaffirmer le soutien qu'a la ZAD auprès de tout plein de gens qui luttent, et puis célébrer cette première bataille. Et il y a aussi l'idée de, non pas de passer le flambeau, mais en tout cas d'insuffler le même esprit qui a animé la lutte pour la ZAD sur les autres endroits où des gens luttent. Donc, comme il a été cité, à Bure contre le projet d'enfouissement des déchets nucléaires, à Roibon là, contre un center park, et etc. D'autres projets imposés, inutiles pour, comme diraient certains, en tout cas autoritaires.
Je la paierai pas, non, ton amende. Je me bats plutôt pour Notre-Dame-des-Landes. Sans m'endetter, je peux donner sans gaspiller. Je peux aimer, si demain y'a plus d'argent, on se débrouillera sans tes champs. Je la paierai pas.
On n'a pas cité les Lentillères, par exemple, aussi à Dijon, le potager collectif des Lentillères. Enfin, c'est un espace qui était historiquement des jardins ouvriers, qui était parti en friche, qui a été occupé par des gens, histoire de remettre en culture ces espaces-là. Et au fur et à mesure, ça a été aussi un point de convergence au niveau des quartiers de Dijon, avec plein de gens qui ont commencé à venir, réhabiliter des jardins. Ça a aussi été un espace d'accueil pour des migrants arrivant sur Dijon, et qui commencent aussi à fréquenter, même qui fréquentent depuis plusieurs années les lieux. Ils ont une petite revue. Il y a aussi des concerts qui se font là-bas, il y a un maraîchage, un espace de maraîchage. C'est aussi un espace où on va avoir à la fois une opposition à ce qui semble vraiment l'absurdité contemporaine, et un espace de rencontre et de solidarité. Et de vie.
Ouais, c'est comme un Azad, quoi. C'est un peu. Après, c'est. Parce que quand on parle de ZAD, il y a toujours le fantasme de ce que représente le ZADIS, en tout cas, et les médias et la police en font, comme il y a eu d'autres figures d'ennemis intérieurs. Bah, aujourd'hui, il y a peut-être le ZADiste. Et en fait, dans ces luttes-là, on n'est jamais ce que la police ou les médias nous représentent. Donc, c'est souvent dans une lutte là qui est inspirante pour la ZAD, c'est que c'est quand même un territoire, entre guillemets, en tout cas un coin, un bout de pays. Qui, avec toute la variété des âges et des gens qui habitent, se mobilisent contre. Et c'est ça qui fait que c'est beau, c'est ça qui fait que ça a tenu, c'est ça qui fait que ça a gagné là. C'est que c'est varié, et c'est pas ce que représente, en tout cas, derrière le mot zadiste, et les certains médias et la police. C'est pareil pour les luttes dont on a parlé, ou en tout cas les territoires qui se mobilisent autour d'un quartier à Dijon, autour d'un projet transformateur dans l'Aveyron, peut-être ici contre l'usine à bois de Bugeavian. Il s'agit de saisir en tant qu'habitant autour, dans toute la variété qu'on est, pour savoir qu'est-ce qu'on veut vraiment pour notre pays. Voilà.
Et qu'à la différence des blousons noirs les zadistes construisent et n'écoutent pas Johnny Hallyday.
C'est peut-être important de le dire.
Ça, c'est bien.
Non, il faut quand même. Effectivement, il y a un ou deux tags, il me semble avoir vu, qui disent ZAD ici en Corrèze. Et le président du conseil général de Corrèze, du conseil départemental, il a dit aussi qu'il y avait des zadistes. Donc ce mot se répète par ici. Qu'est-ce que vous en pensez?
Quand on est arrivé ici, il n'y a pas si longtemps. Non, quand on faisait les démarches pour chercher un endroit où vivre ici, donc ici même, la personne qui tient les lieux nous a mis en garde et dit qu'elle ferait attention à ce qu'on soit pas une bande de... que ça soit ni la zone ni la ZAD. Enfin, c'était assez lié comme ça. C'était super clair. Avec tout ce qui s'ensuit, de quoi on dépend, comment on subvient nos... besoin, comment on retape aussi, dans la manière dont on retape.
Non. Mais cette crainte des zadistes, elle existe vraiment parce qu'il s'agit d'une construction. Et moi, je trouve ça fou comment les constructions médiatiques réussissent à passer. Et c'est pour ça aussi qu'on a envie de dire deux mots. Moi, j'ai envie de dire deux mots sur Radio Vassivière pour cette raison. Parce que il faut défaire juste un exemple de construction médiatique complètement dingue. La route RD 281 sur la ZAD.
À Notre-Dame-des-Landes, donc.
Sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, ce qui est appelé la route des chicanes. Les médias ont mis en avant, moi je l'ai entendu, mais sur tous les grands médias, le fait qu'il fallait libérer cette route qui était occupée par les zadistes et bloquée par eux. Alors il faut savoir que la route RD 281 a été fermée par l'État français en 2013, et que depuis lors, elle n'existe plus sur les quartiers GN. Pourquoi elle n'existe plus sur les quartiers GN? Elle a été supprimée administrativement parce que ça devait être le site du futur aéroport. Et donc l'État, l'ayant supprimé de la cartographie officielle, administrative, a décidé aussi de la fermer avec des gros trucs, des blocs de béton armés qui ont été posés aux deux entrées de cette route. Et c'est le mouvement de l'anti-aéroport qui a rouvert cette route pour la rouvrir à la circulation. Avec les tracteurs, ils ont viré les blocs de béton et ils ont laissé à la place un système de circulation ralentie qui fait qu'on l'appelle la route des chicanes.
Comme on voit dans pas mal de bourgs.
Oui, mais sauf que là, effectivement, on voit ça dans pas mal de bourgs, sauf que là, en plus, c'était un système un peu plus autonome, on va dire. C'est pas les bâtiments et travaux publics qui font ça, c'est un coin, c'est une carcasse de bagnole.
C'est une zone 30, en fait.
C'est une zone 30, voire même zone 15. Vraiment, il y a des fois où il faut vraiment repasser en petite première pour passer. Mais ça circule, En poids lourd, ça passe pas, mais c'est indiqué à l'entrée, les poids lourds, et de toute façon, pour l'État, elle est plus censée exister, cette route. Et donc, du coup, c'est le mouvement anti-aéroport qui l'a rouverte. Donc ça, c'est une chose à savoir. Deuxième là-dessus, point. Les médias rajoutaient, deuxième chose, que le fait que les Zadis bloquent la route forçait les conducteurs à faire un détour de 45 km. C'est absolument faux. Il n'y a pas 45 km de détour, il n'y en a même pas 5. Tu es entre la Paclée et les Vigneux de Bretagne, si je ne me trompe pas. Si tu veux passer un tout petit peu plus loin... non, c'est pas la Paclée et Vigneux. C'est entre... Enfin, je me souviens plus exactement entre quel endroit et quel endroit, je connais pas la carte par cœur, mais en tout cas, le détour, il est de 5 km. Tu vas au bled d'à côté, et tu te retrouves au même endroit. Il n'y a pas 45 km. Et ça, c'est des petites conneries que les médias, les grands médias, n'ont pas cessé de dire. Cette route doit être débloquée, elle est occupée. Non, elle a été fermée par l'État. C'est des choses comme ça. C'est comme l'histoire des zadistes ultra-violents. Enfin, il faut suivre. Il y a un truc sur le blog d'un un journaliste de Télérama qui est très drôle. Les médias ont raconté qu'il y avait vous vous rendez compte, des boules de pétanque hérissées de lames de rasoir. Alors, il y a un journaliste qui démonte ça. Heureusement, il y a un peu des contrepoints quand même. Et lui, il y a des habitants de la ZAD qui ont été interviewés là-dessus aussi. Mais en fait, c'est absurde de faire une boule de pétanque hérissée de lames de rasoir. Déjà, en termes de soudure, ça tient pas. Et puis, comment tu la tiens dans la main, ta boule de pétanque? Tu vas te péter les doigts. Donc, personne ne fait ça, en fait. Et c'est juste pour créer... La vérité, elle est de l'autre côté. La vérité, elle est juste de regarder qui est mort. Rémi Fraisse, il est mort. Wissam El Yamni, il est mort. Adama Traoré, il est mort. Les gens qui ont été abattus des fêtes de la police, là en France cette année, je crois que c'était une dizaine de personnes dans l'année 2017. C'est quasiment une personne par mois. Moi, j'ai pas le souvenir, dans les années récentes, d'avoir entendu que des zadistes avaient tué ou blessé grièvement un flic. Il faut arrêter de retourner à la réalité. C'est même dans des procès récents, on a entendu ça aussi, comme quoi il y avait des tentatives de meurtre, etc. Les blessés, ils sont de notre côté. Les gens qui sont éborgnés par flashball, ils sont de notre côté. Les gens qui se font exploser, à qui les flics balancent des grenades de désencerclement ou des grenades offensives F1 comme celle qu'a tué Rémi Fraisse, ils sont de notre côté. C'est pas, nous, on n'a pas cette violence-là. On la prend surtout dans la gueule. Et il ne faut pas dire le contraire. Effectivement, des fois, les gens répliquent. Ils répliquent avec quoi? Ils répliquent avec des cailloux. Ils répliquent éventuellement avec ce qu'ils ont sous la main, quoi.
J'ai entendu le gouvernement parler d'une évacuation après la trêve hivernale et faire une différence entre les bons zadistes et les mauvais zadistes. Donc entre des agriculteurs qui viennent pour travailler sur les lieux et des éléments radicaux. Et qu'est-ce que vous pensez de ça et comment eux, ils prétendent en tout cas pouvoir faire la différence entre ces éléments-là et...
Faut plutôt leur demander à eux.
Oui, après, c'est quand même la bonne vieille technique divisée pour mieux régner, quoi. C'est, au final, c'est un peu ça. Hein. C'est en créant un ennemi intérieur, voire un ennemi intérieur à l'intérieur d'une structure d'opposition ou d'un mouvement, ils vont chercher à le diviser et à créer des dissensions internes qui feront éventuellement qu'à un moment donné, une partie du mouvement pourrait prendre position du côté de l'État plutôt que du côté de leurs anciens amis, et que des gens, du coup, enfin, ça crée toute une série de conflits, et c'est une opération, c'est clairement une opération, une tentative pour scinder le mouvement, et fort heureusement, les opposants à l'aéroport, le mouvement anti-aéroport, depuis le début, a réussi à tenir bon là-dessus en disant qu'il ne se ferait pas diviser. Et je suis très content aussi d'avoir entendu plusieurs fois sur l'opposition à la montagne Pelée, quand les médias locaux ont commencé à parler de zadistes, à parler de radicaux, il y a eu ce truc des radicaux dans la montagne, la réponse de l'association dont la montagne Pelée notamment était très juste en disant qu'il ne se laisserait pas avoir par les tentatives de division et qu'il savait très bien pourquoi il luttait avec les personnes avec qui ils avaient décidé de s'organiser. C'était vraiment une solidarité contre un projet.
En fait, quand l'État annonce ça, c'est performatif. C'est-à-dire, si les gens sur la ZAD de Notre-Dame trouvent ça aberrant, la plupart, j'y étais le moment du résultat, la plupart des personnes que j'ai rencontrées trouvaient ça aberrant. Ils ne savaient pas non plus bien s'ils étaient concernés ou pas. Donc déjà, ça c'est clair que ça ne l'est pas. Et c'est performatif dans le sens où quelqu'un est radical aux yeux de l'État à partir de certains moments, d'une certaine manière. En fait, tout le monde deviendra radical si tout le monde empêche la police d'extraire des radicaux. Donc en fait, l'État va vouloir expulser tout le monde. Et c'est comme la route des chicanes, c'est performatif dans le sens où demander l'évacuation de la libération de cette route... C'est demander aussi à ce qu'eux-mêmes libèrent le passage en cas d'évacuation. C'est pour ça que ce qui est très bien, c'est que hier, dans le journal, on a lu, ils ont commencé à libérer la route, eux-mêmes, mais ils ont annoncé aussi que si une menace d'expulsion venait poindre, je ne sais plus comment on dit, Ils rebreloqueraient aussitôt. Donc ça, c'est... pour moi, pour l'instant, ils réagissent plutôt bien à ça.
Une dernière chose ? Non, c'est juste de dire, ben voilà, nous, on va monter en soutien, en tout cas, à ce mouvement-là, avec les forces locales qui voudront aussi participer à ça, avec notre dragon de 15 mètres de long, avec une tête en bois et papier mâché et grillage qui va représenter, avec beaucoup de métal aussi dessus, qui va représenter la menace d'usine à Pelé, comme sur l'affiche un peu de l'association dans la montagne Pelé. Et on va, comme d'autres personnes dans ce carnaval, brûler notre mascotte, notre représentation de ce contre quoi on lutte, et faire la fête. Voilà, et c'est, tout le monde est bienvenu.
J'aimerais te les faire partir, tes putains de capitalistes, et inventer des noms de ruelles avec mes copains anarchistes.
C'était Camille et Camille en lutte contre le projet d'usine à Pelé Torréfié et en soutien à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes qui entre dans une nouvelle phase maintenant qu'il n'y a plus de projet d'aéroport en face. Reportage réalisé à La Selle, en Corrèze, ce jeudi 25 janvier.
Je me bats plutôt pour Notre-Dame-des-Landes.